With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, avant de démarrer, je voulais vous suggérer deux podcasts d'interview qui sont chers à mon cœur, que nous avons lancés sur Mademoiselle et qui devraient vous plaire. Le premier s'appelle The Boys Club. On y parle avec Mimi et un invité tous les 15 jours de son rapport à la masculinité et à la virilité. Si vous aimez les invités d'Histoire de Daron qui se confient, vous devriez aimer The Boys Club. Le deuxième, c'est Clémence Bodoc, la rédactrice chef de Mademoiselle.com, qui a lancé un podcast qui est intitulé
« Sois gentil, dis merci, fais un bisou »,
où elle réalise tous les 15 jours des entretiens avec des, je cite, « petites filles sages qui ont arrêté de l'être ». Le nouvel épisode qui vient de sortir est consacré à Pénélope Bagieux. Vous trouverez tous les liens pour vous abonner dans les notes du podcast. Merci beaucoup pour votre attention et allons-y pour Histoire de Daron. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de faire la connaissance d'Edouard. Edouard que j'appelle Doudou tout au long de ce podcast. Et oui, cette familiarité, un peu particulière certes, vient surtout du fait que je connais Edouard depuis plusieurs années. Un lien qu'on a creusé depuis 3 ans et demi, puisque j'ai bossé avec Christelle, sa femme. Elle est venue chez Mademoiselle pour lancer notre régie publicitaire. Autant vous dire que tout ça fait une belle histoire. En parlant d'histoire justement, Edouard en a une familiale très intéressante, mais aussi et surtout une personnalité si attachante que je voulais vous le présenter. C'était également la toute dernière occasion d'enregistrer avec lui cet entretien fin janvier, puisque quelques jours plus tard, lui et sa famille partaient pour s'expatrier à New York. Vous verrez, c'est notamment pour ça que Doudou utilise pas mal de termes anglais. Le pauvre, il bosse dans une boîte américaine et il a complètement changé de mindset, enfin de façon de penser, quoi. J'espère que cet épisode vous plaira. Et en attendant, si vous aimez Histoire de Daron, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Vous pouvez mettre une note sur iTunes, 5 étoiles, de préférence, et sur vos applis de podcast préférés. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, ça permettra au podcast de gagner en notoriété. J'ai aussi une chaîne YouTube où je mets les nouveaux épisodes. N'hésitez pas à souscrire à un abonnement, comme McFly et Carlito disent. Enfin, si le concept vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. J'en ai terminé avec ma tirade habituelle d'autopromo. Je vous laisse avec Edouard. Alors, on est avec Edouard. Salut Edouard.
Salut.
Tu t'appelles pas vraiment Edouard en fait. Si, c'est ton vrai prénom.
Alors, on m'appelle Edouard, on m'a appelé beaucoup Doudou, mais on m'a appelé Dude aussi, en référence au Big Lebowski.
Pourquoi
et
Dude?
Je pense que c'était une époque où on avait tous besoin d'un surnom parce qu'on cherchait une identité différente ils l'ont choisi pour moi en fait un petit peu. Je pense que c'est un mix entre la coupe de cheveux,
tu veux dire tes potes,
l'appétence pour la vodka et le russe blanc donc.
Ah ok.
Et ouais en fait le nihilisme pas trop en fait donc c'est chelou. Voilà, je pense que c'est plutôt la coupe de cheveux.
Parce que t'es pas trop en peignoir. Hein.
Non ouais. Pas trop.
C'est pas
et je joue plutôt mal au bowling en fait.
Je te perçois.
Et je sais jouer à peu près au bowling, mais mal.
Edouard, t'as 35 ans.
C'est ça.
C'est ça, si ouais. Je me trompe pas.
En général, c'est le moment où je te dis que je suis de Picardie.
C'est pas grave ça.
Bah ouais, mais
ça
statistiquement, il faut qu'on représente le.
Ça arrive à des gens très très vieux.
Ouais.
C'est vrai. La preuve. Ouais. L'important, c'est d'en sortir.
La Picardie. Absolument.
C'est pas ça, non, qu'on dit souvent.
Bah on y est soit par hasard, soit on traverse. C'est-à-dire que tu vas à un endroit et tu passes par, mais tu y restes pas. Si tu y restes, c'est qu'effectivement tu y es né en général.
Ouais, c'est clair. Tu as 2 petites filles ?
Absolument. Bientôt 2 et bientôt 5 ans. Ce mois-ci en fait, dans les 30 jours qui viennent.
Ah, j'ai eu peur que tu dises bientôt 2 et bientôt 5. Je me suis dit, ça y est, le mec il va avoir 5 filles.
J'attends des triplés. Non, c'est pas ça. Non, et c'est bien 2, c'est bien. On est bien là.
Pour être tout à fait transparent, Doudou, je te connais depuis un petit moment. Je sais plus quand. Depuis très longtemps en fait, je pense, en vrai, l'air de rien.
Ça doit faire au moins depuis, je dirais, un truc du genre 2008. Ça doit faire une dizaine d'années à peu près.
Putain, oui, c'est vrai. Pour être encore plus transparent, j'ai bossé pendant 3 ans et demi avec ta femme.
Absolument.
Je me souviens à l'époque, je t'avais demandé si tu connaissais quelqu'un pour venir prendre la régie commerciale de Mademoiselle et tu m'avais dit non, je connais personne.
Absolument, c'est vrai.
Le mec ne voulait pas que je travaille avec Christelle.
C'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire.
C'était ton objectif.
C'est ça.
Et vous partez, donc on va en parler un peu plus tard, mais vous partez vous expatrier à New York.
Lundi prochain.
Oui.
Donc dans 4 jours.
Ça va le stress ?
Ouais. Ça va.
Ouais.
Ouais, non, ça. Tu étais assez self-convincing ou pas? Ouais, c'était. Non, je suis absolument convaincu de ce que je te dis. Oui, non, ça va. On a les visas, on a les tickets d'avion et on a les clés d'un endroit où on va vivre. Donc, c'est. On va dire que là, check.
C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est pas mal.
T'emmènes donc toute la petite famille? Tu pars pas tout seul?
Je pars avec mes trois meufs. Les deux petites et la grande.
On est là pour parler de ton rapport à la paternité. Mmh. On en a déjà un peu parlé, en fait, et c'est pour ça que ça m'intéressait de t'entendre raconter tout ça. Ça t'est venu quand, toi, l'envie d'avoir des enfants?
Je pense que, en fait, j'ai pas un souvenir d'un déclic où c'est venu, tu vois, comme ça. Je pense que je l'ai toujours eu, et je pense que c'est lié à ma famille. C'est-à-dire que c'est lié à la façon dont j'ai grandi. J'ai une famille un peu particulière, donc je vais t'obliger d'en parler. On a tous une famille particulière, de toute façon, mais elle est pas mal, celle-là. Et donc, je pense que les codes de ma famille font que je me suis toujours... c'est la filiation, et j'ai toujours pensé que j'aurais une famille. En fait...
T'es très famille pour le coup.
J'ai été éduqué dans une ambiance de transmission, de travail, mais pas non plus stakhanoviste, tu vois, et de respect de l'autre.
Que font tes parents comme métier?
Ils sont médecins.
Les deux.
Les deux, exactement. Ils se sont rencontrés d'ailleurs à Reims, pas en Picardie. Enfin, maintenant c'est même machin, mais à l'époque non. Et ils se sont rencontrés pendant leurs études de médecine, absolument.
Ok. Qu'est-ce que tu dis que ta famille est particulière, ça veut dire quoi?
Alors ma famille est particulière, parce que ils ont deux enfants, donc je suis le deuxième, moi je suis le second, et ils ont donc ils sont médecins et ils ont j'aime bien le raconter comme ça parce que c'est une histoire que j'ai raconté malheureusement pas malheureusement, je l'ai pas raconté souvent, mais j'aime bien le raconter dans ce sens-là. Donc deux médecins qui attendent un enfant en 77. Et qui sont à la fin de leurs études, donc ils sont en internat, comme tous les médecins qui se respectent à ce moment-là. Et donc ils ont cette discussion technique si jamais il y a un problème avec notre enfant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc ils se mettent d'accord que s'il y a un problème, il vaut mieux laisser partir l'enfant. Et évidemment, j'étais pas là, moi. Je suis arrivé qu'après. Et donc ma mère a trois derniers jours d'accouchement très compliqués. Sans savoir exactement pourquoi, parce qu'il n'y a pas les examens techniques. Je te raconte ça, mais comme j'étais pas sur place, peut-être que les détails sont pas exactement parfaits.
Il n'y a pas d'échographie et tout à l'époque.
Voilà, c'est ça.
Quoi.
Et en gros, le gynéco, je crois qu'il joue au golf, donc c'est compliqué. Et donc, il y a un accouchement un peu en urgence, parce qu'elle va de moins en moins bien. Et ma mère tombe dans les vapes après l'accouchement, et en fait, le bébé est très petit. Enfin, petit. Il est maigre. Il fait 1,3 kg de mémoire, un truc comme ça. Enfin, bref. Et surtout, il est tout, comment dire, pas coagulé, mais il est concentré. Et il a été étranglé, en fait, par le cordon ombilical les trois derniers jours de grossesse, donc il s'est étranglé. Donc il n'était plus alimenté. Et donc il fait un arrêt. Donc l'enfant s'arrête. Et donc, mon père se retrouve devant c'est Jack Bauer, quoi. C'est le dilemme impossible. Et donc, il décide de réanimer mon frère. Et donc, mon frère, aujourd'hui, a 40 ans. Il a deux enfants, il va très bien. Il a une vie professionnelle, c'est un mec génial. Et donc, ce jour-là, ils ont décidé de choisir... alors, je sais pas, la vie, ça fait un peu genre... Je suis dans l'église catholique, etc. Ils ont choisi la possibilité, ce jour-là. Et donc, ils ont... t'imagines bien vécu une vie, enfin ce jour-là ça a été un tournant comme n'importe quelle décision que tu peux prendre d'ailleurs, mais celle-ci elle est plus marquée je pense, et ils se sont rendus compte un an et demi après qu'il y avait des séquelles, c'est-à-dire que mon frère avait des troubles, donc ça s'appelle IMC, c'est une insuffisance moteur cérébrale, donc cérébralement mon frère est tout à fait smart, il est d'ailleurs parfois trop smart. Et donc il a eu des problèmes moteurs cérébrales, ça veut dire qu'il a eu des problèmes de transmission de son cerveau pour les réflexes de mobilité, il a des problèmes d'orientation dans l'espace, il a des réflexes un peu intenses, et donc il a fait 18 ans de rééducation, il a marché à 8 ou 9 ans, il a eu plusieurs interventions, et donc ça a conditionné, ça a mis la famille dans un setup qui n'était pas du tout une famille classique. J'ai jamais vu l'étude, mais j'ai entendu beaucoup de gens qui disent que dans ce genre de situation, les couples ne tiennent pas. Souvent, le père se barre, d'ailleurs. C'est une contribution à ton podcast sur le comportement masculin et la paternité. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé dans ma famille, donc mes parents sont restés ensemble. Mais il faut imaginer, je pense, enfin, moi, encore une fois, j'étais pas là, mais l'œil technique qu'ils ont pu avoir sur leur enfant, parce qu'ils sont médecins, la situation qu'ils ont vécue et tout le travail que ça a nécessité, et donc le comportement qu'ils ont dû avoir par rapport à leur enfant. C'est-à-dire que ils m'ont raconté des tas de choses beaucoup plus tard, d'ailleurs assez récemment, sur la façon dont ils ont dû être durs, parce qu'ils devaient faire l'exercice tous les jours, donc t'imagines. Enfin, donc il a parlé très tôt apparemment, il a parlé à un an, il parlait. Par contre, il a marché à 8-9 ans. Donc il a eu un développement un peu inversé. Moi, je suis arrivé 5 ans plus tard. Moi, je suis un post-accident. Donc ma mère a eu un accouchement, n'importe quoi, une grossesse qu'elle n'aurait pas dû avoir. Donc là, il y a eu un crash, c'était une grossesse stérilée, donc ça n'a pas marché. Et elle a pris ça comme un signe, et elles se sont dit, bon allez hop, on fait un deuxième, et donc c'est moi que voilà. Mais donc moi, j'ai grandi dans une ambiance, si tu veux, du coup, où déjà j'avais un rapport inversé avec mon frère. Donc par exemple, quand je marchais, j'avais 2-3 ans, j'étais un peu sa télécommande, donc il avait besoin de trucs, c'est moi, je parlais pas, moi, j'ai pas parlé jusqu'à 3 ans et demi, 4 ans, donc tard pour le coup. Mais c'est marrant parce que c'est complètement... épongé, tu vois le truc, je sais pas si on dit épongé, mais si c'est un mot, il marche dans cette situation.
Bon, balancé, tu veux dire, c'est ouais, ça par rapport à ton frère.
Exactement. Mmh. Donc là où lui pouvait pas marcher, il a parlé, et moi là où finalement il parlait pour 4, hein, parce qu'il était extrêmement drôle, il est toujours drôle d'ailleurs. Il y avait ce pendant dans la dynamique de la fraternité, on va dire. Et donc, je sais plus où je voulais en venir, mais ouais. Si, déjà j'ai grandi dans une ambiance où j'ai vu le regard des autres très tôt sur mon frère. Et donc je voyais des gens qui regardaient mon frère dans la rue en mode bah pourquoi il marche pas, même des amis proches de mes parents, je voyais bien qu'ils étaient pas pareils. Et puis même dans la famille, ça fout le bordel, parce que tu vois, ma grand-mère maternelle par exemple était complètement fan de mon frère. Il y avait un sentiment de culpabilité en fait, et donc il y a tout ce truc là qui traîne dans la famille, alors qu'il n'y a pas lieu, en fait, c'est juste que c'est un héritage familial qui fait que... Et le pauvre, d'ailleurs, mon frère, de temps en temps, je pense, le vit pas bien non plus, parce que c'est là, et c'est pas facile à gérer. Bref, tout ça pour dire que c'est une famille particulière, très unie, et qui a toujours pris soin de ses enfants, en gérant des différences, et en étant toujours hyper impartial et égal. Enfin, en tout cas, je pense que et mon frère et moi, on a toujours vécu comme ça. Et je pense que dans cet esprit-là, et donc toute ma croissance et la façon dont j'ai été éduqué, pour répondre enfin à ta question, parce que je ne vais pas parler que de ça non plus, j'ai toujours vécu avec un modèle familial que j'adore, d'amour, de respect, de transmission, et donc je me suis toujours imaginé être papa.
Tu t'es jamais posé la question de faire autrement, quoi?
Non. D'ailleurs, dans mon couple, donc j'ai rencontré Christelle il y a 16 ans maintenant. On s'est rencontrés assez tôt. Moi, c'était toujours un truc dans ma tête. Et en fait, la rencontre avec Christelle, c'est une autre histoire qui est fabuleuse. Et donc, dans cette rencontre-là, moi, je m'étais toujours imaginé que... Enfin, donc, la première fois que j'ai vu... Je vais te raconter l'histoire, comme ça sera mieux. Donc, quand j'ai rencontré Christelle, c'était à l'école de commerce à Reims. Moi, j'étais déjà à l'école et elle allait arriver au concours. Et donc l'histoire est vraie parce que ça fait vraiment film. En fait, j'imagine ma vie un peu comme un film avec, tu sais, une bande originale que je pourrais presque faire. Donc si je pouvais éventuellement, tu vois, je rêve un jour de réaliser un film, je pense que c'est un bon thème. Non pas que je sois mégalo, mais je trouve que l'histoire de ma famille et de ma vie en général, et il y a des scènes, je pense que tu compiles un truc, ça peut être absolument génial.
Peut-être à New York, là.
Voilà, il y a New York, ouais. Donc tu peux faire un mix entre premier jour du reste de ma vie, casse-tête chinois qui se profile et tout. Il y a des trucs, et ça peut être chouette. Ça peut être bien. Donc bref, tout ça pour dire la rencontre avec Christelle. Flash à son concours, je vois Christelle et vraiment, j'ai un crush instantané. Déjà parce qu'elle a un sourire extraordinaire, tu le connais.
C'est vrai.
Un sourire imparable. Et deux, elle dégage un truc naturel. Authentique, c'est pas le bon mot, je sais que t'aimes pas ce mot-là. elle est vraie, quoi. C'est-à-dire que cette nana... Je pense qu'elle peut pas s'empêcher, elle est comme elle est, et ça transpire une sincérité qui m'a toujours hyper touché. Et je me suis dit instantanément que cette nana-là était c'était une des plus belles femmes que j'ai eues, c'était la plus belle femme que j'ai eue, et je le pense clairement toujours aujourd'hui.
C'est beau.
Et donc, je suis rentré chez moi le soir, en Picardie, donc, et j'ai dit à mes parents, je pense que j'ai rencontré la femme de ma vie. Voilà, donc donc il y a eu, ils s'en rappellent
très bien,
et mon frère était là d'ailleurs. Ouais.
Et elle n'était pas au courant.
Hein? Alors non, il faudra lui demander. Elle m'a dit qu'elle m'avait vu sur le catalogue parce que c'était une école nouvelle, on était 60 Pékin dans l'école. Donc tout le monde était sur le catalogue. Et elle m'a dit, je t'avais vu sur le catalogue. Et je m'étais dit, lui, Et lui, en gros, je devais répondre à une promesse sur le papier qui devait être pas mal. Bon, ça, c'est bref. Mais on vit avec ce truc-là. Non, mais ce qui est marrant, c'est que sa mère, par contre, était là. Et un an et demi après, parce qu'on a mis un an et demi à sortir ensemble, un an et demi après, sa mère... donc moi, j'étais à Toronto. C'est une autre histoire, une partie du film. Il a fallu que j'aille à l'autre bout du monde pour que je me rapproche de Christelle, parce que c'est une personne très... prudente. difficile d'accès.
difficile d'accès.
Non, mais en tout cas, sur ce terrain-là, clairement. Et donc là, on a commencé à s'écrire des mails. Et donc, elle allait apparemment tous les jours chez elle, enfin tous les jours, souvent dans la semaine, écrire des mails. Et sa mère lui a dit un jour, ah, mais si c'est quelqu'un de l'école, je pense que c'est le garçon que t'as rencontré il y a un an et demi. Pas mal. Donc, il s'est quand même passé un truc quand même aussi, je pense, de son côté. Mais enfin, moi, je peux dire que ce que j'ai dit, c'était vraiment ça. Et donc, moi, je m'étais toujours imaginé, du coup, si tu suis ma logique, j'ai rencontré la femme de ma vie, donc la mère de mes enfants.
Forcément. Normal.
Voilà. Donc, je me suis toujours imaginé, depuis le début, avec Christelle, avoir une famille. Le truc, c'est que ça se fait pas en 3 jours. Donc, je pense que si j'étais venu en lui disant, bah, regarde, tu prends ce podcast, tu lui fais écouter, je pense qu'elle m'aurait quitté immédiatement, tu vois. Elle serait dit, mec, vas-y, c'est bon, on a la vie devant nous. Et donc, ça nous a pris 10 ans pour nous marier. Et un an après pour avoir la première. Et ça a été un cheminement, je pense, pour elle, très différent de moi, parce qu'on n'a pas vu la même chose, parce qu'elle, elle était beaucoup plus dans un délire je veux réaliser mon rêve professionnel, je veux probablement réaliser mon rêve social, avant de bâtir la famille, qui n'était pas son. Tu vois, donc il a fallu vraiment ajuster le truc. Et moi, je m'étais toujours dit, de toute façon, ça doit se faire tout seul, ou alors ça ne se fait pas, quoi.
Oui,
c'est pas forcé, un destin familial.
Mais je veux dire. Et ça, c'est un truc dont on n'a jamais parlé, pour le coup. Comment tu lui as amené le sujet, toi, par rapport aux enfants? C'est...
Bah, je ne lui ai pas amené le sujet. En fait, je pense que le sujet, il était plus packagé avec le sujet du mariage, en fait. C'est un... En fait, c'était plus, moi, tu sais comment je suis. Enfin, tu vois, même si je ne lui ai jamais dit, voilà, moi, c'est le package total. Et donc, si tu veux rester avec moi, c'est comme ça. Mais elle savait que dans mon schéma familial, il y avait forcément les enfants. La question, c'était plutôt quand, parce qu'elle était plutôt à l'aise avec l'idée des enfants, même si c'est pas forcément ce qu'elle disait d'ailleurs à l'époque, parce qu'elle se protégeait aussi, elle voulait pas avoir une pression familiale trop importante. Ce que je comprends complètement, ouais, parce que t'as quand même à un moment donné, c'est assez bizarre d'ailleurs, sur le coup des 26, 27, 28, 29, 30 ans, t'as un espèce de rush familial, je pense, des grands-parents qui se disent, bah nous on commence à être un peu âgés, donc tu peux pas, vas-y... Tu peux livrer, s'il te plaît? Et t'es là, genre, bah non, désolé, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Quoi. Nous, faut qu'on sente le truc. Puis on n'est pas exactement à la même époque que vous, les gars. Donc nous, c'est plutôt à 30 piges qu'on fait les enfants. Maintenant, c'est pas vraiment à 25. D'ailleurs, en plus, moi, j'ai toujours eu l'argument qui tue, parce que je dis, mais pardon, moi, vous m'avez eu à 30, donc back off. Et donc, je pense que c'était pas. On n'a pas eu vraiment le sujet. Le sujet, c'était plutôt, est-ce que tu penses qu'on va finir notre vie ensemble? Et si on fait notre vie ensemble, bah, a priori, faudra un jour qu'on le fasse. Voilà. En fait, moi, je me suis toujours dit, mais ça, c'est un avis totalement personnel. En aucun cas, je juge des gens qui ne font pas d'enfants. Parce que j'ai entendu dans un de tes podcasts précédents, et je comprends complètement le phénomène de pression qu'il peut y avoir sur des gens qui ne veulent pas faire d'enfants. Et c'est bien qu'il y ait des gens qui ne veulent pas faire d'enfants. Il y a des gens qui font des trucs extraordinaires sans faire d'enfants. Et donc, qu'est-ce que je voulais te dire, du coup? Ouais, ce que je voulais te dire, c'est... je me suis toujours projeté dans ce truc où je ferai des enfants pour transmettre. Parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Et je pense que mes parents sont dans ce mindset-là. Et donc, pour moi, en fait, c'est une forme de... Un peu de prise de distance par rapport à ma mortalité et de me dire... Ça, c'est marrant parce que du coup, je pars tout de suite dans des sphères de karma
mais
et
c'est
tout.
Intéressant, bien sûr.
Mais notre passage est plutôt bref sur Terre. Et moi, je crois au karma et toutes ces conneries. Alors, on a eu une discussion récente avec Christelle d'ailleurs là-dessus, sur la religion et les enfants, etc. Parce qu'on a baptisé nos enfants, donc, et là, on s'en va. Donc, c'est un sujet qui revient. Mes parents, si vous m'entendez, c'est pour vous. au fait, le baptême, c'est quand? Et en fait, on a eu cette discussion... du coup, je jump d'un sujet à l'autre, hein, je suis désolé, c'est le fin de pêle-mêle. Moi, je me considère, ma religion à moi, c'est je suis croyant. En fait, j'ai pas de. Je trouve que la religion, c'est plutôt un dogme, mais c'est une façon de coder un truc. Et moi, ma croyance, c'est l'optimisme. Donc, je suis quelqu'un de positif.
Tu vas monter ta secte alors, c'est ça?
Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, je me dis, moi, en fait, ce que je veux inculquer, c'est ça, c'est d'être optimiste. C'est-à-dire que je pense que quelque chose existe et que moi, ça me drive au quotidien. C'est-à-dire, bah, je m'y pense pas tous les jours, mais je me dis, moi, j'ai envie d'être quelqu'un de bien. Parce qu'à la fin de ma vie, si j'ai réussi à transmettre quelque chose, ben, tant mieux. Et au moins, j'aurais pu avoir un impact positif sur ce monde, malheureusement, pas si bien que ça. Et donc, par rapport à la religion, du coup, je te fais tout le package sur la religion aussi. Il y avait une question de est-ce qu'on fait le baptême ou pas, et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on leur donne. Et sur la religion, du coup, moi, mon point, c'était... moi, je suis content. Alors moi, j'étais dans une école privée catholique en Picardie, pour des raisons purement géographiques. Et de qualité de staff, enfin de présence plutôt de staff. Moi, mon point de vue, c'est que c'est bien d'avoir une expérience religieuse parce qu'au moins, t'es exposé à quelque chose. Et moi, ma crainte pour mes enfants, c'est qu'ils se retrouvent un jour peut-être sans nous, par exemple, on n'est plus là, et qu'ils aient jamais été exposés à une religion et qu'ils se retrouvent exposés à un truc violent, intégriste, et qu'ils se disent, bah tiens, la solution finalement à nos problèmes, c'est ça. Et je me dis, moi, si jamais j'avais vécu ce truc-là, le fait d'avoir été exposé à du catéchisme, à quelque chose, en fait, arrivé à 15-16 ans, je me suis dit, c'est bullshit, ça me parle pas du tout. Mais comme je l'ai vécu, j'ai un esprit critique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on m'a exposé un truc, c'est pas parce qu'on t'expose à quelque chose que tu vas l'ingérer, que tu vas être d'accord, mais au moins tu l'as vécu. Et j'ai peur que l'absence d'exposition à un code religieux puisse être une faiblesse possible en cas de problème un jour.
Mais ceci dit, il y a plein de... Alors pas forcément maintenant, parce qu'elles sont encore petites, mais il y a plein d'opportunités de parler de la religion dans l'actualité, etc. etc.
Ah bah c'est sûr, oui.
En dehors de l'aspect juste purement d'éducation, je veux dire.
Ouais, c'est vrai. Pardon, du coup, je me tais un peu parce que je parle tout le temps là. Je me rends compte que c'est impossible d'en arriver, je pense.
C'est le but. À quel moment vous décidez ensemble, tous les deux, de faire des enfants? Alors, comment ça se décide entre vous?
En fait, c'est après le mariage. Donc, on a fait notre mariage en 2011 et on a décidé de faire un truc un peu comme d'habitude, un peu n'importe comment. On a fait notre cérémonie laïque, etc. On a envoyé tous les messages qu'on voulait envoyer à notre famille, à nos familles respectives, parce qu'on a des familles extraordinaires. Christelle a des parents absolument géniaux aussi. Une histoire qui n'a rien à voir. Et on s'est dit après le mariage que, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est cohérent, c'est que voilà, c'est parti quoi. Et donc, c'est arrivé deux ans après, Eve est née. Même pas un an et demi après. Voilà. Et c'était la première. Et donc Eve, la première.
Tu vas trop vite. Comment s'est passée la grossesse?
Alors la grossesse. Ah oui, non, c'est vrai. C'est une vraie expérience, la grossesse.
Le mec, il passait pas là. C'était fait. Allez,
ouais. Alors en fait, bah, tu vois, bien. Du coup. Moi, personnellement, j'ai très bien géré. La grossesse, ça a été la découverte de plein de trucs. Donc clairement, la première pour nous, je pense comme pour beaucoup de gens, on a été plus stressant comme grossesse parce que tu découvres des tas de choses. T'essaies d'anticiper plein de trucs. En plus, j'ai la femme que j'ai, donc elle est plutôt dans l'anticipation. Moi, je suis plus dans le carpe diem et j'essayais donc de tempérer plein de questions qu'elle pouvait avoir. Mais globalement, elle a fait une très bonne grossesse, enfin de mon point de vue en tout cas. Elle a dû, si je me rappelle bien, s'arrêter un peu plus tôt. Moi, clairement, tu vois, on a eu cette discussion à un moment donné de il faut que je m'arrête un mois et demi avant prévu là où je bosse. C'est la catastrophe. Elle était en larmes. Je lui dis mais pas du tout. Enfin. T'es bête ou quoi? Enfin, tu vois, là, c'est juste. Tu vois, il y a des niveaux de priorité dans la vie et celui-là, il est bien plus élevé. Donc, tu prends soin d'eux et tu prends soin de toi et tu kiffes. Vas-y. Et donc, elle est même, d'ailleurs, parce que donc, il s'est passé à ce moment-là, c'est que la fin de sa grossesse, je démarrais une aventure professionnelle un peu intense. Et on a décidé, évidemment, comme beaucoup de gens aussi, de faire des travaux dans notre appart. Donc, c'était Bagdad. Bah, quoi. Oui. La vie était complètement retournée. Ça a permis à Christelle de passer du temps avec mes parents en Picardie. Donc, elle a vécu quelques semaines là-bas, ce qui est génial parce que ça a vraiment créé un truc. Parce qu'ils ont toujours rêvé d'avoir une fille, donc c'était parfait. Ils ont vraiment accueilli Christelle. De toute façon, ils adorent Christelle. C'est génial. C'est énervant des fois, mais c'est vraiment génial. Et donc elle a vécu une grossesse très bien jusqu'au dernier jour de grossesse où donc moi je me rappelle très très bien de ce jour. Il a neigé, il neige assez peu fréquemment en fait à Paris. Et il a neigé que l'heure de l'accouchement, donc il devait être 20h, 23h, tu vois, il a dû commencer à neiger vers 17h, un truc comme ça, et c'était pour F quoi, voilà, je me l'ai interprété comme ça. Donc évidemment elle a bien douillé Christelle parce que c'était découvert de plein de trucs, mais elle a géré ça comme une chef. Et il y a eu la rencontre de Eve. Alors c'est marrant parce que je m'étais toujours posé une question avec les enfants, c'est la part de l'inné et de du conditionné ou du transmis. Mm. Et donc j'ai eu la chance de récupérer Eve. D'ailleurs, il y a une petite blague sur ce truc, c'est que je me suis rattrapé au deuxième accouchement, du coup, mon premier accouchement. Donc j'étais dans la salle d'accouchement, j'ai assisté au truc, que j'ai trouvé absolument génial et sans aucun antécédent pour la suite d'ailleurs, pour le mec, parce qu'il y a beaucoup de gens qui craignent qu'après ils verront plus leur nana pareil. Mm-hmm. Moi je trouve absolument pas. Bon, après, je suis vraiment complètement amoureux de ma meuf, donc peut-être que c'est ça la raison, mais. Non pas que tous les gens qui pensent ça ne sont pas amoureux de leur meuf, c'est pas du tout ce que je voulais dire. T'as, faut que je fasse gaffe à ce que je dis quand même.
Merci Doudou.
T'as pas eu ce problème?
Non. Si moi.
Ah merde.
Non mais en plus c'était plutôt pour l'après moi. Je m'inquiétais de comment on allait retrouver une vie d'amant,
ouais.
En fait.
Ouais.
Plutôt une vie de couple plutôt, ouais, qu'une vie de parent.
Ouais. C'est vrai que c'est un sujet.
C'est pas pareil, mais
c'est vrai que c'est un sujet. Ouais. C'est vrai. Mais au final ça remarche, il y a pas de problème.
Bah oui, mais
non, ça n'a jamais remarché.
Je sais pas comment vous l'avez géré, mais moi en tout cas à l'époque, j'avais donc ma femme s'appelle Gat. Je lui avais clairement dit, en fait, je lui avais exprimé ma peur. Et il y a des gens qui m'avaient dit autour de moi, t'es gonflé parce qu'en fait tu lui mets une pression, etc.
Bah ouais.
Moi je l'ai pas vu du tout comme ça, et en plus je pense que elle non plus. Je lui ai simplement dit, en fait, voilà, moi je veux bien qu'on fasse des enfants ensemble, mais en vrai, je veux surtout qu'on ne devienne pas juste des parents et qu'on
distant,
reste, qu'on reste des amants et qu'on reste amoureux. Et qu'on...
Alors moi, je ne l'associe pas tant vraiment à l'accouchement, mais plutôt à l'arrivée de l'enfant, en fait.
Ça va tout ensemble, hein, non?
Bah non, mais l'accouchement, ça te prend 24-48 heures, oui, dans les pires cas, mais à l'arrivée de l'enfant, c'est vraiment ce qui redéfinit ton couple en un triptyque. Avant, c'est un diptyque pour moi. En fait, tu as le couple et tu as l'individu, et après, tu as la famille, le couple et l'individu. Et enfin, moi, en tout cas, de mon point de vue, pour que ça marche, il faut que les trois existent. Mmh. Et c'est ça qui est compliqué. Mais l'accouchement, c'est qu'un détail, en fait, là-dedans. Enfin, de mon point de vue.
Je suis d'accord. Mais tu veux dire que t'étais comment? T'étais à côté d'elle ou parce que...
Ouais, j'étais à côté.
Moi, il y a des mecs...
ils tombent dans les vapes ou...
Non, enfin, moi, j'ai failli tomber dans les vapes, je vais faire ma gueule. Mais
il faut que j'arrête de...
Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, c'est juste qu'il y a des mecs qui se mettent en face, en fait. Et qui...
Oui. Non, alors, j'ai pas forcément cherché le...
Pour moi, c'est le grand chelem, quoi, tu vois, c'est... Ouais. Pas mal, quoi.
Non, moi j'étais sur le côté. Bref. Et donc il y a eu ce moment où j'ai récupéré Eve dans la salle là à côté et j'étais tout seul avec elle pour la première fois. Et là j'ai compris qu'il y a. Enfin, donc j'ai instantanément pensé qu'il y avait une part d'inné chez l'enfant parce que donc elle avait les yeux grands ouverts. Alors que vraiment j'avais l'image des nourrissons qui viennent de naître complètement dans le coltard. Et bah tu connais Eve, était pareil. C'est-à-dire que dès le début, j'ai vu cette créature avec des yeux, me regarder au fond des yeux. Je me suis dit, mais comment déjà elle calcule mes yeux? Parce que normalement, ils ne voient rien, les bébés, au début, c'est tout flou. Et elle m'a calculé comme ça pendant, ça durait, je sais pas, 90 secondes peut-être. C'était long. Et c'était génial. Tu vois, et je me suis dit, c'est con, mais c'est le réflexe du mec des années 2010 qui veut sortir son téléphone, et je ne l'ai évidemment pas fait. Et je me suis dit, mais il faut que je m'imprime ça au fond de ma mémoire, quoi. C'est absolument génial. Et
t'as fait une photo.
La deuxième a fait la même. Non, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait dans ma tête, ouais.
Dans ta tête, oui.
Ouais, je l'ai imprimé. Je l'ai fait en. et je m'en rappelle très très bien. Je vois toujours sa tête. Et donc, je me suis dit, tiens, vraiment, il y a de l'inné. Et après, je me suis dit, peut-être aussi, il y a la grossesse. C'est-à-dire que, du coup, j'ai repensé après. À ce moment-là, je me suis dit, en fait, les 9 mois qu'on vient de vivre, ont conditionné probablement aussi son caractère. Et on avait passé de la musique sur le ventre de Christelle, on avait mis du Patrick Watson, c'est une musique qu'on aime bien, des trucs chouettes. Et je me dis peut-être que tout ça, ça a influencé son truc. Il y avait le stress aussi que Christelle a vécu. Et c'est qu'à posteriori que je me suis rendu compte que oui, elle avait cohabité avec Christelle pendant 9 mois et que oui, probablement le mental de Christelle avait conditionné aussi peut-être un peu la façon dont elle était dès la naissance.
Bah, je pense
après, je suis peut-être un peu dans l'analyse beaucoup, mais,
ouais, mais
donc à ce moment-là, vraiment, je me suis dit...
C'est scientifique, non ouais. Les bébés reçoivent des hormones,
des ondes, à manger, etc. Donc, ouais, donc grossesse, super. Voilà. Moi, j'ai bien vécu la grossesse, et Christelle, je pense, Christelle aussi.
Comment ça se passe, le retour à la maison?
Alors... je pense que le psychorigide dans les deux, c'est plutôt moi, en fait. moi, je suis, en fait, j'ai jamais sous-estimé mes enfants, dans le sens où je trouve que les bébés sont des créatures extrêmement intelligentes. Quand je dis créatures, c'est peut-être un peu méchant quand même, mais des êtres extrêmement intelligents. Et donc, évidemment, t'as les deux premiers mois où vraiment ils sont tout petits, tout faibles, et ils ont besoin Donc ils ont besoin de chaleur, ils ont besoin de manger, ils ont besoin qu'on les lave, etc. Et c'est marrant d'ailleurs cette totale dépendance, hein, ça te crée un lien énorme, quoi. C'est absolument génial. Mais à 3 mois déjà, je savais que Eve, elle avait déjà l'intelligence de comprendre quel type de réaction on aurait. Donc par exemple, des cododos, tous ces trucs-là, c'était pas possible, quoi. Donc moi, tout de suite, on l'a mis dans sa chambre à côté. Et on a tenu à la main, et c'était plus l'instinct maternel de Christelle, qui clairement a un instinct maternel absolument développé, et elle a beaucoup d'amour pour ses enfants. Moi aussi, mais ça s'exprime peut-être différemment. C'est-à-dire que moi, pour l'amour que j'ai pour mes enfants, de par l'histoire que j'ai vécue, j'ai probablement un mode de relationnel où j'essaie de les rendre le plus autonome possible, le plus vite possible. Parce que je l'ai vu comme ça, et j'ai été élevé comme ça. C'est-à-dire que, enfin... Je pense pas que mes parents aient foncièrement voulu me donner cette éducation-là, ça a été juste une conséquence. Mais je me dis que je vis très bien, je suis bien dans ma tête et que j'ai envie... Donc ça, c'est un compliment que Christelle a fait à mes parents un jour, c'est « Nous, nos enfants, on veut les élever comme vous avez pu élever Doudou. » C'est plutôt chouette. voilà. Donc, vraiment, c'est plus foutre, évidemment. et puis surtout, ils étaient là genre « Qu'est-ce qu'on a fait ? Comment on peut... Tu vois, est-ce qu'on a vraiment un playbook ? Non, on n'a pas de playbook sur le truc. » et donc voilà, donc mes enfants, j'essaie juste de pas, comment dire, de pas créer.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Une dépendance non nécessaire qui finalement va peut-être flatter mon ego et créer un bonheur court terme qui va pas leur rendre service au final. Parce que les enfants, tu les fais pas juste pour ton ego personnel, tu les fais pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se développent bien, qu'ils pensent bien. Enfin, bon, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de faire. Et donc, du coup, très rapidement, je me dis, on va s'éviter les problèmes. Ce qui compte déjà, c'est qu'elles dorment bien. Dormir pour les bébés, je trouve que c'est vraiment le premier truc. Et donc, dans les nombreux potes qu'on a autour de nous qui ont eu des problèmes de dodo, des enfants, très souvent, je me rends compte que les enfants, ils viennent les réveiller tous les jours, ou ils ont l'habitude de les visiter pendant, tu vois, une ou deux fois par nuit, et ils répondent. Et donc là, je pense qu'on a au moins un truc à marcher, ça c'est sûr, à date, dont je suis content, sur les deux, parce qu'elles dorment. Elles dorment bien, elles peuvent dormir 12-13 heures par nuit, elles ont dormi tôt. Et donc ça, c'était le premier truc où je me suis dit, check, ça c'est bien, elles dorment, donc c'est qu'elles vont, se développer correctement, elles vont être cool. Bon, après, elles sont quand même un peu speed, elles dorment.
Elles sont éveillées, on va dire.
Elles sont éveillées. Ah, c'est-à-dire qu'elles dorment, mais quand elles se réveillent, elles sont là, quoi. Il n'y a pas de débat là-dessus.
Elles vivent.
Hein. Ouais, les deux. Elles posent beaucoup de questions.
ce qui est cool en soi.
Ouais. Ah oui, c'est génial. Elles sont hyper curieuses.
C'est toi qui dis que tu veux transmettre. C'est ta faute, hein.
Ah oui, c'est mais donc là, après, il faut que tu sois cohérent dans tout ce que tu fais. Et ouais, clairement, ça, c'est un autre sujet qui est l'énergie que tu peux leur donner, que tu dois leur donner au quotidien, et comment tu t'en sors pour être le plus bienveillant, ça reste quand même le bon mot, je pense, avec elles. Pour qu'elles se sentent ni rejetées, ni que t'es agacé ou ce genre de choses, parce qu'il faut être dispo, quoi. C'est compliqué, mais il faut.
Et donc, t'as deux filles.
Donc, j'ai deux filles. Ouais, donc, Eve a eu sa petite sœur quand elle avait 3 ans. Donc, Tess est arrivée quasiment même mois, donc 3 ans près en 2016. Donc, Tess a 2 ans le dimanche. Et lundi, on prend l'avion. Toujours.
Ça a toujours pas changé.
Ça a pas changé, on part toujours. Ouais. On part toujours. Et l'arrivée du deuxième, pour le premier, c'est évidemment tout un truc. Deuxième fille, donc je suis hyper content moi, d'avoir deux filles, je trouve ça génial.
T'es content ?
Ah, je suis hyper content d'avoir deux filles. C'est comme toi, t'as deux filles.
Ouais, moi je suis trop content, mais je sais qu'il y a des mecs qui.
Alors ouais, moi j'ai jamais flippé à l'idée d'avoir des filles, alors, même si clairement je sais pas comment ça marche une fille. Mais je pense que les mecs non plus, en fait, je comprends pas bien comment ça marche. Là, on a eu beaucoup de chance parce que je te remercie encore, mais tout le temps que Christelle a passé ici, elle a été exposée à des tas de choses qu'elle n'avait probablement pas vécues avant et qu'elle a vraiment emmagasinées et pris pour elle et qui vont servir les filles. Donc ça, c'est super. Je pense qu'elle a pas, on ne réalise pas à quel point être une meuf aujourd'hui, c'est très très différent d'être un mec. Et on vit dans une société qui bouge très vite. Et c'est vrai que, alors, je suis ravi d'avoir deux meufs pour des tas de raisons. Pour moi, les meufs sont c'est mieux que les mecs parce que cérébralement, je trouve que c'est vachement plus intéressant. En tout cas, ça me parle plus.
C'est sexiste ce que tu es en train de dire.
Non, je suis c'est un point de vue.
Complètement d'accord.
C'est un point de vue. Je trouve que c'est vachement plus intéressant une meuf parce que c'est plus fin dans la perception des émotions. Ça a moins de problèmes pour partager sa vulnérabilité.
Faut que tu viennes faire des petits stages chez Mademoiselle parce que c'est surtout une construction sociale, tu sais.
C'est-à-dire oui,
il y a des explications. En tant que mec, on nous éduque pas justement à partager nos émotions.
Mais moi, je me suis toujours considéré avoir un caractère assez féminin finalement dans la façon dont j'ai grandi, parce que j'ai été exposé à des tas de trucs trop tôt, enfin plus tôt. Et donc j'ai eu un conditionnement social qui est certainement pas du tout la norme.
Alors si ce genre de sujet, j'en place une petite pour le podcast que je co-anime avec Mimi chez Mademoiselle qui s'appelle The Boys Club, où en fait on reçoit des mecs pour donc tous les 15 jours pour venir parler de leur rapport à leur masculinité. Et, et en fait c'est hyper intéressant.
Ah oui, tu dois avoir des trucs chouettes.
Ouais. Donc voilà, si le sujet de la construction sociale autour de comment ça se passe d'être un mec vous intéresse, surtout n'hésitez pas. C'était une petite parenthèse.
Une bonne pub. Moi j'adhère, j'ai envie d'y aller. C'est bête, je pars. Et j'écouterai, c'est un podcast.
Je viendrai à Brooklyn.
Ok, parfait.
À New York, t'inquiète. T'es heureux d'avoir deux filles?
Ah ouais. Limite, ça me terrifie les garçons, quoi, maintenant, tu vois. Alors, sauf, on a la chance d'avoir quelques potes qui ont des garçons qui sont super. Mais globalement, quand je les vois à l'école, ça me terrifie, quoi. Je me dis, putain, je comprends pas. En fait, ils sont tellement. T'es binaire, ça se tape. C'est pas facile, je trouve. Je pense moi, j'aurais certainement plus de mal à éduquer. Bon, c'est pas fini encore, on a peut-être pas encore fini complètement le compteur, mais là, on est quand même à deux filles et je pense qu'on est bouclé.
je pense qu'on est bouclé.
Je me sens confiant.
C'est toi qui décides, non, a priori, parce que c'est
absolument
toi qui
pas.
Veut...
Alors, moi, je pars du principe que c'est la maman qui décide et le papa suit.
Alors, j'entends, mais par exemple, comme tu partais du principe que tu voulais des enfants.
Ah oui.
T'as aussi peut-être une certaine idée, toi, plus que Christelle, de la famille que t'as en tête.
J'ai pas de famille en tête.
Non.
Bah, la famille que j'ai en tête, c'est juste chaque jour essayer d'échanger le plus de trucs possible. C'est tout. J'ai que ça en fait. Et puis ça s'arrête n'importe quand la vie. Donc j'ai pas. Enfin, en fait, plus j'avance, plus je me rends compte que je peux pas faire de plan en fait. J'arrive pas. C'est ce qui compte pour moi, c'est que si ça s'arrête là, j'ai un problème en bas là, en quittant tes locaux là, à côté du Grand Rex. Je sais pas, il y a un camion qui passe. J'ai une bonne vie. Tiens, ça c'est chouette. Non mais vraiment.
Ça devient d'où?
J'en sais rien. Je pense que c'est mes parents encore. Tu vois, enfin c'est. Je pense que la vie qu'on a eue m'a fait juste prendre conscience que il n'y avait pas que des bons moments. En fait, moi, j'arrive à trouver la vie belle même dans les moments un peu compliqués. J'aime des films un peu tristes. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je te dis, j'ai un peu probablement un caractère un peu. Faire un raccourci en disant que c'est un caractère féminin, c'est pas la bonne track, mais une forme de perception du lyrisme et de la beauté de la vie, même dans les moments difficiles, que probablement j'hérite de mes deux parents, probablement plus ma mère quand même, parce que ma mère c'est l'artiste de la troupe, et elle, clairement, si j'ai appris la vulnérabilité, c'est grâce à elle, je pense. Et mon frère. Tiens, mon frère, forcément. Et mon père, je pense, le cache. Je pense que c'est lui le. Tu vois, le. Mm. Le, comment dire, le bonhomme, quoi, tu vois. Et donc lui, je pense qu'il a. Mon papa, si tu m'entends, c'est pour toi. Mais je pense qu'il a passé sa vie à compenser et à assurer pour tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des moments où j'ai envie de lui dire mais lâche l'affaire, quoi. Tu vois, baisse la pression. Tu sais, t'as rien à prouver, en fait. Tout le monde te respecte. Et surtout, toi, tes enfants te respectent. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir ni un tissu social, ni une reconnaissance professionnelle, ni. Même l'habit du moine, tu vois, on s'en fout de tout ça. Enfin, moi, mes parents, je les aime, c'est ça qui compte, tu vois. Et je pense que c'est ça que j'ai probablement appris, et j'essaie d'être un papa un tout petit peu différent là-dessus, parce que je trouve que, en tout cas, j'ai l'impression que, et c'est pas du tout un jugement, parce que je pense qu'il a kiffé sa vie, on a juste pas eu la même vie, on a pas grandi au même moment, on a pas eu le même. Alors, on pourrait parler de son père, sa mère, etc., ça a rien à voir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents beaucoup mieux que ceux qu'il a eu. Objectivement, c'est sans débat. Et du coup, j'essaie de tirer justement la transmission qu'ils m'ont fait, et je suis une espèce de new version of my dad. Tu vois, ça y est, je suis en train de switcher sur la partie Brooklyn.
Alors, vous aurez remarqué que Edouard parle beaucoup en franglais.
En franglais, tout à l'heure. C'est vrai que j'ai passé beaucoup, pas
il travaille, oui, beaucoup. On mettra je mettrai pas un lexique parce que ça va être trop long.
Ce gars parle bizarre, il est en train de switcher, il s'en plus conduire.
Il bosse dans une boîte américaine en France.
Et il bosse dans la pub, alors ça, c'est alors là, c'est l'enfer. Ça sert à rien.
Jean-Claude Van Damme.
C'est exactement ça. Tu vois, dans 10 ans, tu pourras faire la suite, tu diras, mais il est complètement taré. Et alors, en gros, donc, ce que j'essaie, j'essaie d'être au moins aussi bien que mon papa, parce qu'on a tous un peu en termes de modèle de paternité. Et j'essaie passivement, parce que j'y pense pas tous les jours, mais d'apporter peut-être ce dont j'ai peut-être manqué un petit peu. C'est-à-dire que moi, voir la vulnérabilité de mon père, je l'ai vu que deux fois dans ma vie, ça m'a apporté quelque chose. Je me suis dit, ça c'est des déclics où je me suis dit, ah en fait, il peut pleurer. Ah ouais. Ah putain, incroyable. Mais alors du coup, putain, il est vachement plus intéressant, ce gars-là. Heureusement que j'ai vu pleurer. Dans des contextes très différents. Alors que ma mère, moi, elle pleurait beaucoup plus. Ce qui la rendait extrêmement intéressante, du coup. mais surtout, je me disais, voilà, il y a des émotions. Et en fait, tu sais, c'est ce moment dans ta vie où tu te dis, ah, mais mes parents, ils ont été jeunes aussi un jour. Je sais pas quel âge tu l'as, ce truc-là, mais c'est probablement vers 10 ans, un truc comme ça. Enfin, moi, en tout cas, c'était peut-être, je sais pas si c'était tôt ou tard, mais c'est à 10-12 ans, je me suis réalisé qu'ils avaient eu une enfance aussi, quoi. Ils étaient plus petits. Alors moi, je passe mon temps à raconter à Eve que moi aussi, j'ai été petit comme Eve, tu vois. Très tôt, je l'ai fait. Moi aussi, j'étais un bébé. Maman aussi, c'était un bébé. Mamie, c'était un bébé. Papy, c'était un bébé. Et du coup, je pense que il y a plein de choses comme ça, très bêtes, mais qui permettent à vos enfants de probablement très tôt mieux percevoir la vie et donc de se construire peut-être différemment. Voilà. Bref, je sais pas d'où sort ce truc, mais je te le donne. C'est
t'as,
cadeau.
T'as pas peur de pleurer devant tes filles alors?
Ah non. Non, mais moi, tu vois, on regarde Vice Versa. Ah. Vice Versa, elle me regarde. Ce qui est bien, c'est qu'elle regarde pas. Elle te regarde pas. Regarder le film. Elle regarde le film. Mais toi, t'es là, genre, mais enfin, tu vois, tu prends son patin à glace et tu te rends compte qu'elle a vécu des choses très tôt dans sa vie. Moi, ça a été j'allais dire un truc franglais. Une révélation.
Un breakthrough.
Eye opener. une révélation quand j'ai vu Vice Versa, où je me suis dit, mais en fait, cette petite là, ça pourrait être ma fille. Et en fait, dès la naissance, tu sais, il y a ce plan, le film commence à la naissance, où tu te rends compte que tout de suite, il y a la colère, le bonheur, etc. Et j'adore la morale de ce film qui est que de moments tristes peuvent naître des moments de joie. Je trouve ça génial. C'est vrai, tu vois, l'essence du film pour moi, elle est là, si je devais résumer le film, c'est ça. Et que, oui, bah, elle va avoir des moments tristes et elle va avoir des moments. Mais ça sera probablement aussi des souvenirs positifs dans sa vie, ce qu'il aura construit. Et quand t'as joie qui comprend que tristesse, elle a le droit d'exister dans le film, tu te dis, ah ouais, putain, ils sont forts quand même les gars chez Pixar. Parce que, bon, alors évidemment, les enfants, ils voient pas ça, mais toi, t'es là, genre, ah ouais, ok, d'accord. Mais, ouais, non, donc oui, oui, ça m'est déjà arrivé de pleurer devant elle, mais c'est pas, j'ai pas encore eu le moment où j'ai pleuré de tristesse d'un truc imprévu devant elle, hein, donc ça, c'est pas arrivé encore. Mais ça arrivera probablement, mais c'est ce qui arrive avec mon père. Je l'ai vu une ou deux fois craquer, enfin deux fois, précisément.
C'était marqué.
Ouais, bien sûr. Absolument. Et c'est bien. Je suis content de l'avoir eu.
Comment tu transmets au quotidien? Parce que tu dis que justement, c'était ton... Est-ce que t'as des trucs? Tu t'es mis en place avec, avec tes filles, des moments de... Alors, discussion. Alors, elles sont encore petites, hein, 5 et 2.
5 et 2, ouais, 2, si tu veux. Là, on commence à avoir les mots. Et... Tess, hein, tu vois comment elle est en plus. On l'appelle Tessosaur quand même.
Oui, c'est...
Là, c'est la puissance.
C'est pareil. Ah,
c'est génial. Là, c'est une période absolument géniale. Alors, moi, je suis pas très ni dans le cérémonial, ni dans les habitudes. C'est pas. En fait, je me rends compte que c'est pas actif, mais passivement, je rejette un peu ce truc-là, en fait. Même les histoires et tout. Tu vois, à un moment donné, j'ai essayé de lui apprendre l'anglais, puis on s'est dit, bon, déménager à New York, ce sera plus simple.
Pas le choix.
Chier. Pardon. Et non, donc par contre, j'ai une règle bête que ça, j'ai analysé tout seul de mes parents, parce que je pense que c'est la règle fondamentale. Si j'en ai une que je peux donner aux parents qui nous écoutent, c'est j'ai pas souvenir d'avoir fini une seule journée de mon enfance en conflit avec mes parents. Pas une journée. Et pourtant, il y a eu des journées où vraiment on s'est engueulé. Et je sais que tous les soirs, quand on s'était engueulé, mes parents passaient à un moment donné, je dormais ou pas d'ailleurs, peu importe, mais ils venaient me faire un bisou sur mon front, et il me disait un truc dans l'oreille qui était « C'est pas grave, je t'aime, tout va bien. » Et ça, pour moi, c'est un modèle de transmission. Parce qu'en fait, c'est la base de la confiance en soi. Et si je devais résumer, probablement, la seule chose que je voudrais donner à mes filles, c'est qu'elles aient confiance en elles. Point. C'est le seul truc. Et que ça soit des gens bien. Ce serait quand même bien. Si accessoirement c'était possible, ça serait mieux. Parce que si c'est des jerks, à partir en plus, si c'est des gens qui font mal aux autres, ça serait quand même dommage. Parce que des gens qui font mal aux autres et qui ont confiance en eux, c'est les pires. Donc respecter les autres et avoir confiance en elles, c'est vraiment la base. Et je pense que ça passe par le fait que tu aies confiance dans ta vie et dans la façon dont on t'éduque. Et c'est pas vraiment l'éducation, c'est plutôt ton développement personnel. C'est le fait que tes parents t'envoient des messages positifs que. Ouais, il y a des journées super et puis il y a des journées qui sont pas bonnes, mais ce qui compte au final, c'est que tu te sentes bien. Et je pense que c'est ce que j'essaie de donner à mes enfants. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il y a vraiment des jours où vraiment c'est compliqué. Elles tirent sur le système. Moi, j'ai un seul problème avec les filles, c'est que j'ai une réception au son qui est pas la même que Christelle. Donc Christelle, elle est capable d'avoir Tess qui lui crie dans les oreilles pendant, sans rire, 5 minutes. Elle va même pas lui répondre. C'est-à-dire que c'est comme si elle la calculait pas, quoi. Alors que moi, au bout de 3 secondes, je suis en mode, je regarde Christelle, en mode, elle t'appelle et il faudrait que tu lui répondes, s'il te plaît, parce que moi, là, je peux plus déjà. Tu vois, c'est pas possible. C'est en train de me dézinguer. Et donc, assez rapidement, moi, je pète un plomb. Donc, par exemple, tu peux imaginer la scène où je suis dans la voiture. Donc, Picardie, Paris, ça fait une heure et quart à peu près. Et au bout d'un quart d'heure, t'en as une qui crie et l'autre qui limite et que boum ça dure 5 minutes et là moi je suis au volant et je me dis mais je vais jamais arriver. Et donc c'est dans ces moments là où c'est difficile, c'est à dire que c'est difficile de te dire carpe diem, tout va bien les enfants, je suis là pour que vous ayez confiance en vous et je vais vous dire que je vous aime tous les jours. Et là il y a vraiment des moments où j'ai envie de leur dire mais arrêtez quoi, vous me rendez fou en fait.
T'es sympa avec arrêter,
hein?
T'es sympa avec arrêter. Moi, fermez bien mon cœur.
Ah mais c'est ça, c'est ça. Mais là j'essaie de maîtriser mon franglish et de ne pas dire de choses trop violentes. Mais il y a des moments où il y a une ou deux fois j'ai pété un plomb. Il y a une fois où je me suis arrêté, où j'ai sorti Eve de la voiture, je l'ai mis sur la voiture et je lui ai dit tu t'arrêtes parce que en fait tu te rends pas compte, mais conduire pour papa ça demande un peu d'énergie. Et là en fait j'arrive même plus à me concentrer sur ça et tu vois la voiture elle avance et on pourrait avoir un accident. C'est pas ça va pas quoi. Et donc, ça cogite, tu vois, mais c'est compliqué. Je pense qu'elles se disent, on est dans un programme automatique, on peut les faire chier autant qu'on veut, il va rien se passer. Alors que non, en fait. Tu vois, il y a des airbags dans la voiture, il y a des trucs qui peuvent se passer, quoi. C'est bon, bref. Et en plus, donc ça, c'est une autre débat qui est la charge mentale, mais on va pas en parler trop. Mais je disais, moi, je conduis tout le temps. Christelle aime pas trop conduire. Il y a des jours où ta charge mentale, conduire, c'est une charge mentale pour moi. C'est-à-dire que moi, je prends aucun plaisir à conduire. Et donc, t'as bossé, tu te fais ton trajet de nuit, etc. Machin, et tu pètes un plomb, quoi. Et c'est difficile de toujours être dispo pour tes enfants et de toujours être le modèle de... Non, mais... Moi, je suis zen, il n'y a pas de problème. Non, je peux pas être zen tout le temps. C'est pas possible. Et donc ça, c'est culpabilisant et c'est vrai que c'est pas facile. Alors, tu te dis, je vais leur aller dessus, puis 2 heures après, je vais aller dans leur... Enfin, tu vas leur dire bonne nuit et leur dire, mais en fait, il n'y a pas de problème. C'est quand même important de faire le closing, quoi. Leur dire, je suis désolé. Ça m'arrive... Voilà, donc ça, c'est un autre truc aussi, c'est que je dis à mes enfants, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû. Je suis désolé, parce que pour moi, la vulnérabilité dans le comportement aussi est importante. C'est-à-dire que je veux pas qu'ils croient que je suis infaillible. Je leur dis, ça m'arrive de faire des erreurs. Évidemment, parce que je suis humain. Et ça, c'est un truc aussi que je veux leur transmettre. C'est que je pense que mettre une barre trop haute aux enfants, en leur disant, tu dois être comme, et tu dois être infaillible, et puis tu dois tout le temps finalement prendre la bonne décision, etc. Puis t'as jamais tort, c'est pas la bonne... je pense que c'est pas la bonne programmation.
Et puis en plus, en tant que père, tu vois, pour des filles, c'est-à-dire que t'es aussi, toi, en train de leur coller une image de masculine, quoi.
Ouais, et mais je veux pas du tout qu'elle ait cette image du gars juste autoritaire, etc. Parce que malheureusement, c'est un peu le rôle que je prends dans la famille, parce qu'il en faut un. Et c'est plutôt moi. mais c'est un regret. Il y a des moments où j'ai vraiment envie de tout envoyer chier en disant « Mais en fait, j'ai pas envie de ça, tu vois. Moi aussi, j'ai envie d'être sympa, etc. Et c'est pas du tout un reproche envers Christelle, parce que Christelle... Elle a un instinct maternel et elle adore ses filles et elle a pas forcément eu dans le conflit. En plus, elle a lu beaucoup plus de trucs que moi. Ça fait 2 ans qu'elle me dit que je devrais lire des livres et elle a raison. Le livre de Cillian Alvarez, je l'ai toujours pas lu. Hein. Moi, je préfère lire Walking Dead. Donc, c'est sûr que pour la parentalité, c'est moins efficace. mais c'est vrai que j'ai un temps de cerveau disponible. Je me dis le meilleur service que je puisse donner à mes filles, c'est plutôt que je me défoule dans un truc qui me fait plaisir pour être, enfin, tu vois, plus en paix entre guillemets. Et me taper en plus un livre de Cillian Alvarez, là, depuis 2 ans, j'ai pas réussi. C'est-à-dire que je me fais probablement à tort suffisamment confiance pour analyser le comportement de mes enfants et essayer d'apprendre tout seul par rapport aux erreurs que je fais, parce que j'en fais beaucoup. pour me bâtir moi-même. Et je me dis, je vais pas, enfin, tu vois, quel que soit le livre que je vais lire, en fait, la science de l'éducation humaine, elle n'existe pas. C'est-à-dire que chaque enfant est unique, chaque parent est unique.
S'il y avait une recette, ça se saurait.
Voilà. Hein. Et c'est bien d'avoir une guidance, etc. Mais en fait, moi, je suis un fervent croyant de réfléchis aux conneries que t'as dit et aux erreurs que t'as fait, assume-les, apprends de ce que t'as eu, et puis essaie surtout de comprendre ce qui bloque, parce qu'il y a des moments où, tu vois, Ève, là, depuis un mois et demi, donc on part, évidemment, ça déclenche des comportements qu'on n'avait pas vus avant chez Ève. On essaie de comprendre pourquoi, comment on gère le truc, et puis, bah, tu vois, magiquement, là, ça fait 3 jours, elle est redevenue comme avant. Mais comme ça, à 8 jours du départ, et on sait pas pourquoi. Enfin, on a des théories.
C'est votre stress à vous aussi, peut-être, non?
En fait, déjà, on ne se rend pas compte de ce que les enfants écoutent. Mmh. Je pense que c'est un truc qu'on sous-estime énormément. Moi, le premier.
Ève écoute beaucoup, je
et
pense.
Ève écoute beaucoup et ne dit pas qu'elle écoute. Elle est, ça, elle est un peu en mode « Tiens, regarde, je dessine. » En fait, non, je t'écoute. Voilà, donc, elle est assez hallucinante là-dessus. Mmh. Mais même Tess, elle écoute aujourd'hui. Parce que tu n'as qu'à voir les mots qu'elle sort. Déjà, Ève, déjà, la preuve du truc, c'est qu'elle sort des mots que parfois, je me dis « Mais où est-ce qu'elle a entendu ce mot ?» Enfin, je pense que c'est pareil chez toi, tu vois, mais... Et tu te dis, bon, bah, c'est que vraiment, ouais, il y a des trucs qui passent. Et non, franchement, je sais pas. Je pense que c'est pas vraiment le stress, parce que évidemment, on a du stress, enfin, y a pas de doute là-dessus, mais je pense que c'est pas ostentatoire notre stress. On essaie de le gérer quand elles sont couchées. Il y a quand même beaucoup de choses à gérer quand tu déménages, ça c'est sûr, surtout avec des visas, etc.
Oui.
Mais c'est plutôt une forme de contestation, je pense, d'une décision. Donc, ça, c'est un peu la théorie de mes parents qui nous ont mis allègrement. À disposition, c'est bien parce que je leur ai demandé de me parler franchement des choses qui se passaient dans notre famille, et que le pire c'est très qu'ils parlent dans notre dos et je préfère qu'ils me le disent. Je trouve que le pire c'est les non-dits dans une famille, donc je leur dis, vous avez un truc à nous dire, j'ai aucun problème à le prendre, et puis si je vous dis, je trouve que votre avis sur ce coup là j'y crois pas, je vous le dirai, mais de toute façon je vais l'intégrer. Par contre, si vous ne le dites pas, j'ai aucune chance de comprendre ce qui vous arrive. Et donc là, ils nous ont dit récemment, oui, bah Ève, elle subit le truc. En gros, elle est pas active dans les mélanges. C'est sûr, elle a 5 ans, elle est pas en train de faire les pactons et de partir. Et c'est pas elle qui va aller à l'ambassade et gérer les visas. Ceci étant dit, on a quand même fait un truc, on l'a emmené à New York en juillet, donc 6 mois avant le départ, et on lui a fait expérimenter la ville, et elle est très contente de partir. Donc, je pense qu'il y a probablement une colère du détachement, mais elle est très excitée à l'idée de partir aussi. Donc ça, je pense que le job, entre guillemets, on l'a bien anticipé et elle est contente. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle nous a dit « je ne veux plus partir à New York ». On parle lundi.
C'est déjà énorme.
Et pourtant, elle sait que elle va moins voir ses grands-parents, elle va moins voir ses amis. Bon, à 5 ans, c'est des amitiés relativement courtes, mais si tu le fais en pourcentage de durée de vie, c'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Je les ai vus 30% de ma vie, je les ai vus déjà, quoi. Tu regardes 30% à notre âge, putain, tu les commences, ils se font sur les doigts d'une main, les amis. Et donc, je pense qu'il y a, un mélange de. Probablement, ils ont probablement un peu raison, mais il y a aussi une part de eux qui se projettent dans Ève. Parce qu'on va se perdre. Pas totalement, mais on se perd un petit peu.
On est
très proches.
On se voit à la distance.
On se voit tous les mois à peu près. Donc c'est énorme. Et là, on sait qu'on va moins se voir. Et je pense que passivement, tu vois, donc je prends ce qu'ils me disent et je me dis, il y a probablement une part de comment dire, qu'est-ce que je viens de dire comme mot, c'était le bon mot, de projection, qui est qu'ils imaginent que Ève réagit comme ça parce qu'ils réagissent comme ça. Et je dis pas que j'ai raison, je dis juste que c'est une partie de l'explication. Je suis très analytique dans mon truc.
Non, mais c'est intéressant.
Et donc, c'est pas facile de te mettre à la place de ton môme quand tu déménages, c'est sûr, surtout quand tu pars dans un pays où ils parlent pas la langue. D'ailleurs, on n'a pas d'école, tu vois, on démarre lundi, on n'a pas d'école. C'est plein, donc il faut qu'on trouve une crèche. Mais on essaie de tourner tout en mode ludique. Donc, on dit à Ève, bah écoute, Ève, on va arriver aux États-Unis, ils parlent anglais là-bas, comment on va faire? Tu vois, on les sait. Mais, nous non plus, on sait pas. Enfin, on sait vaguement, mais tu sais, ils vont pas rien comprendre à ce qu'on dit. Et donc, elle explose de rire. Elle fait, ah bon, mais c'est trop drôle. On dit, bah, t'en fais pas. De toute façon, on va apprendre l'anglais. Puis tu vas voir, de toute façon, celle qui sera le meilleur en anglais dans la maison, ça sera toi dans un an. Et tu vois, on essaie de tout tourner en mode ludique, en mode.
Ce qui sera vrai.
Et on lui dit, donc tu vois, mon père qui dit à Ève il y a 2 mois, ah alors, ton amoureux, Milo, tu le verras plus.
Sympa.
Ah, t'es là, genre. Et là, tu regardes Padre, c'est là genre, t'es si intelligent, pourquoi tu fais ça, tu vois, enfin, pourquoi tu lui dis ça?
Mais sans doute pour ce que tu viens de dire.
Oui,
quoi,
probablement. Et du coup, tu vois, indirectement, je pense qu'ils se rendent pas compte, mais du coup, on le prend un peu pour nous. On se dit, bon, bah, ça, c'est clairement pour nous. C'est pas pour Ève, c'est pour nous, quoi. Et puis Ève, elle répond, ah bah c'est pas grave papy, il y a des emails. Tu vois. Et c'est là que tu te rends compte que, bon, globalement quand même, elle a, mais tu la connais donc tu vois un peu comment elle est, elle a un pragmatisme à presque, elle a même pas 5 ans, mais ça va aller papy, t'en fais pas. Tu vois, son, alors ça c'est incroyable, rien à voir, mais il faut que je la raconte parce que ça me fait tellement marrer. Tu sais, donc elle s'est explosé le doigt avec une porte, bon bref, ça c'est une autre histoire. Mais papy lui dit, parce qu'elle avait pris sa retraite, elle lui dit, là ce soir t'as fait ta colère, franchement je m'en gardais un mauvais souvenir. C'est pareil, bon, on va partir, un mauvais souvenir, c'est chaud. Et elle lui répond, tu sais papy ce que c'est un mauvais souvenir? C'est quand on se pète le doigt dans une porte. Et là tu fais, waouh, 4 ans.
4 ans?
Ouais. Donc là papy, j'ai envie de... Parce qu'il a, je crois que c'était la fin de la conversation. Bon, bah, mais je me dis, tu vois, tous ces trucs-là, je me dis, bon, oui, évidemment, c'est la révolution, c'est compliqué pour Eve, etc. Plutôt elle teste, donc elle fait son dinosaure dans le salon, il n'y a pas de souci. Mais je pense que Eve, quand je la vois comme ça, je me dis, ça va aller. Et je me dis, c'est ça en fait, c'est exactement ça, le, ta confiance en toi, tu dis ce que tu penses. Et c'est du sens ce qu'elle dit, tu vois. Mmh. Après, bon, c'est plus ou moins poli, c'est plus ou moins. Parce que là, elle mais... commence à être un peu insolente, etc. Ce qui est normal, je pense que c'est le prix à payer de l'éducation qu'on donne en ce moment. Mais ça me va bien, tu vois. Je me dis, bah en fait, vas-y, girl, tu continues.
Tu peux pas. Je pense que c'est compliqué de faire des enfants autonomes et libres sans qu'ils aient un minimum de désobéissance face à l'autorité, etc.
Je le ressors mon franglish, c'est le trade-off. C'est le compromis du truc. Non mais c'est vrai, t'as raison. Tu dois être prêt à accepter ça en fait. Mais je pense que c'est un bon signe de santé de sa tête.
Je suis carrément d'accord. Bon, en tout cas, vous avez l'air de partir prêt. Les Fifi au taquet.
Ouais. Ouais, mais ouais, c'est fou, hein, parce que déjà, c'est Christelle qui a toujours voulu partir. Ça fait 5 ans qu'elle a ce projet en tête.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Je savais pas.
C'est Christelle.
Ah, d'accord.
Ouais. C'est Christelle, moi, je voulais pas partir. La raison est simple, c'est que bah, donc, j'ai l'histoire que j'ai et que moi, j'ai grandi probablement avec l'anxiété de la mortalité de mes parents. Parce que t'as des parents super-héros comme eux. Bah, tu te dis, à un moment donné, tu réalises bien que. Bah non, ils sont pas invulnérables.
Ils sont pas immortels, oui.
Donc la vulnérabilité, c'est tout un thème. Et c'est bien. Et donc, moi, je me sens forcément. Tu te sens vivre quand tu réalises ce genre de choses. C'est le paradoxe amer de ce genre de phase de ta vie. Du coup, tu veux passer plus de temps avec eux. Et du coup, bah, tu veux pas partir. Et donc, c'est compliqué. Et donc, je pense que donc il y a eu l'aventure professionnelle aussi. Christelle est venue ici. Elle a vécu un truc extraordinaire. Elle s'est développée géniale. Donc merci encore pour ça. Bah, moi, j'adore ce qu'elle devient.
Merci toi. C'est grâce à toi. Je te rappelle.
Complètement fan de ma meuf. Et l'autre, non, c'est pas grave. C'est elle qui a choisi. Moi, je n'ai fait que
tu l'as
ouvrir un champ de possibilités qu'elle avait fermé trop tôt.
Je suis d'accord.
C'est elle, parce que si elle avait vraiment pas voulu, elle serait pas venue.
Bien sûr, ça.
Ah non, c'est clair. Et donc il y a eu ces 5 ans d'expérience professionnelle de mon côté qui ont été particulièrement intenses. J'ai vécu un truc génial. Et je pense que je suis arrivé à la fin d'un cycle il y a un an, et qu'à la fin de ce cycle professionnel, je me suis dit bon, je peux continuer à faire ce que je fais au même rôle pendant des années encore, mais franchement c'est pas fun pour mon équipe, parce que je vais finir par devenir moins bon dans ce que je fais, parce que je vais finir par plus arriver à me challenger. Et puis deux, Christelle, elle a ce projet, et je pense qu'elle a raison, et je suis dans une boîte américaine, et que j'adore, dans laquelle je me suis dit, bah tiens, en fait, cette boîte est en train de me montrer que je peux peut-être faire plus encore. Intellectuellement parlant, je peux peut-être aller un peu plus loin. Et j'ai réalisé que mes parents avaient 67 et 64, ou 63, et que plus j'attendrais, pire ça serait. Et que j'avais vraiment aucun autre chemin en France qui me bottait. J'ai même regardé, mais j'ai pas... Vraiment, entre l'équipe que j'ai, que je voulais pas quitter, cette boîte qui me fascine, et la possibilité peut-être d'aller vivre... alors, on pensait même pas New York. Hein. C'était plutôt Seattle, notre ville qu'on nous aurait suggéré, parce que c'est là où il y a vraiment la plus grosse partie du staff. Et en fait, en janvier, j'ai dit à Christelle, j'ai dit, bah là, il y a le séminaire, là, je pars demain à New York, c'était justement. Et j'ai dit, je vais voir tous les gens qui potentiellement pourraient me trouver un job. Et je pense que je suis prêt. Est-ce que tu veux toujours partir? Et elle m'a dit, mais grave, je veux partir. Parce que, en fait, je ne l'ai jamais fait. Donc moi, j'ai vécu à Toronto pendant 6 mois, il y a 15 ans. Donc j'ai perdu 2 grands-parents. Donc ça ne m'a pas aidé dans mon truc dont je te parle.
Je comprends.
j'ai même pas pu aller aux enterrements, donc c'était compliqué. Ouais. Donc je suis rentré, c'est plus là. En plus, mon grand-père m'a amené à l'aéroport, donc en me disant Doudou, on se voit dans 6 mois, tu vas me raconter tout ça. Et puis il était pas là. Ouais, c'est chaud. Hein. Je l'adorais, mon grand-père. Et donc, elle m'a dit oui, et donc je me suis dit, allez, on y va. Et en fait, c'est des moments dans la vie où il faut pas se poser de questions, il faut y aller. Et c'est ce que j'ai fait, et j'ai pas regretté une seule seconde. Évidemment que ça va être dur. Dimanche, c'est les 2 ans de Tess. Mes parents viennent, et je suis ravi qu'ils viennent, mais je sais que ça va être un moment super difficile.
Au revoir, oui.
Et en même temps, ils viennent le 30 mars à Brooklyn,
oui, c'est
et 3 semaines. Donc c'est ce que j'essaie de, tu vois, de. Dans tout le truc, je sais leur dire, en fait, j'ai appris un truc cette année. S'il y a un truc que j'ai appris, et c'est, je pense que c'est applicable aux enfants aussi, c'est que c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et tu vois, cet été, on s'était dit, on va passer plus de temps avec les parents. On s'est absolument pas forcé. On s'est dit, on va aller en Picardie. Pas de bol. On a eu une météo de merde. Christelle, Eve s'est pété le doigt, donc elle a pas pu aller nager pendant 3 semaines. Donc l'enfer, on faisait faire les bandages, etc. Et en fait, je me suis dit, on avait fait tout le contexte pour passer plus de temps avec mes parents, et finalement on n'a pas kiffé tant que ça parce qu'on a eu tellement pas de bol que c'est pas la quantité qui compte. Et peut-être qu'à Brooklyn, là, ils vont venir 3 semaines, on va avoir 3 semaines absolument géniales, et c'est tout ce que je nous souhaite, tu vois. On va les emmener au musée Guggenheim avec la culture qu'ils ont, ça va être un pied total. Voir les enfants aussi évoluer dans ce truc-là, tu vas avoir des interactions sur des cultures, le langage. Et donc, ce que Christelle m'avait dit il y a un an aussi, c'est pour les filles. Il faut qu'on le fasse. Parce que nous, on n'a pas eu ça. Et c'est un monde aujourd'hui qui est différent. Et il faut qu'on arrive à leur donner ça. Et je pense que c'est un beau cadeau. Et je pense qu'elle a raison, puisqu'on peut le faire. Peut-être qu'on va se gaufrer, on s'en fout. Tu vois, ben, on se gaufrera. Au moins, on aura tenté un truc. Et puis, elles auront appris l'anglais. C'est bien.
Elles reviendront fluentes.
J'espère. J'espère. Mais sinon, c'est qu'on aura fait un truc bizarre, quoi. Mais,
oui, c'est effectivement. Ouais. Il y a une question que je pose à tout le monde.
Ouais.
Tous les invités. Imagine, tes filles écoutent ce podcast dans 10 ans.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
J'espère qu'entre ce que j'ai dit et ce que je fais, c'est vrai. J'espère. Parce que c'est l'intention. Je pense que entre l'intention et le speech et ce que tu fais vraiment, il y a toujours un petit décalage. Je m'applique vraiment à essayer de faire ce que je dis et de dire ce que je fais aussi là aujourd'hui. Là on s'apprête, c'est marrant parce que le timing du podcast est quand même particulièrement marrant. On s'apprête à prendre une décision, on va exécuter la décision qu'on a prise il y a plusieurs mois, qui va changer nos vies. Mais en fait, le vrai message, c'est que en fait, ne pas prendre cette décision, en fait, ça aurait été juste une autre trajectoire. C'est pas, on change pas, on n'est pas en train de fracturer un truc, on est juste passivement en train de, enfin, on a activement pris une décision. Mais en fait, si on n'avait pas prise, on aurait passivement continué à faire quelque chose, et c'était aussi un choix. Et donc le message, si j'en ai un pour elles, c'est j'espère que elles vont kiffer. Elles ont kiffé du coup, puisqu'on est dans le futur, c'est ça ?
Dans le futur.
Qu'elles ont kiffé, et qu'il n'y a malheureusement pas de vérité là-dessus, et que si elles n'ont pas kiffé, bah, je suis désolé, mais là au moment où on a pris cette décision, on pensait que c'était la meilleure. Voilà.
Merci Doudou.
Mais je t'en prie, c'était un plaisir. Et c'est fini déjà. J'ai l'impression qu'on est resté.
On a parlé une heure, tu sais.
Une heure. Enfin, un truc de dingue. J'ai l'impression d'avoir fait une forme de psychanalyse. J'en ai jamais fait, mais c'est ça en fait un peu, non? Ouais, c'est un peu ça.
D'accord, ok.
C'était cool. Merci Fabrice.
Et puis bon voyage à toute ta famille.
Et merci de nous avoir invités dans ta vie perso, pro. Et ce podcast.
Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à me le dire sur Instagram notamment. Mon pseudo c'est FabFlorent, FabFlorent. Vous pouvez m'envoyer un petit message ou me taguer dans votre story, c'est comme vous le souhaitez. Si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, surtout vous n'hésitez pas à m'écrire sur histoire avec un S de daron avec un S @gmail.com. Je ferai en sorte de vous répondre. Ne vous impatientez pas si vous n'avez pas de réponse tout de suite. Je reçois vraiment beaucoup de mails et d'aller au plus simple. Enfin, je vous rappelle que notre rendez-vous, c'est les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois, et donc je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Histoire de Daron le 19 mars 2018. Et d'ici au prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie. À bientôt!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.